Bienvenue pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on se penche sur une véritable légende, hein? Un objet iconique du XXe siècle, la Citroën traction avant.
Ah, la traction.
Oui. Et pour nous guider, on a un article vraiment remarquable de Daniel Rouve. Il est tiré du bulletin numéro 69 du Cartoclub Aveyronnais.
Une publication de passionnés, ça.
Exactement, une publication de mai 2018. Et l'objectif, ce n'est pas juste de parler mécanique ou design, hein.
Non, non.
C'est de comprendre comment une voiture a pu devenir le miroir de toute une époque, avec ses espoirs, ses tragédies. Et c'est une vraie saga, en fait.
Tout à fait.
Alors déballons tout ça. On commence par une voiture qui, à sa sortie en 1934, avait, d'après les journalistes, 2 ans d'avance sur toute la concurrence.
Et la source elle-même, faut en parler, c'est un petit bijou. Le Cartoclub Aveyronnais, c'est pas un magazine auto-classique.
Non, c'est ça qui est intéressant.
C'est une association de gens passionnés qui utilisent des vieilles cartes postales pour raconter l'histoire locale, la vie des gens, quoi.
C'est une approche fascinante.
Et faut rendre hommage au travail de Guy Mazars, qui est le rédacteur en chef et le maquettiste. C'est lui qui met en scène ses récits avec un soin infini.
D'accord.
Ce qui est génial ici, c'est ce décalage. On part d'un objet industriel, la traction, et on déroule 30 ans d'histoire de France. On va de l'innovation pure à la guerre, du grand banditisme.
Au Palais de la République.
Exactement, c'est toute une épopée.
Une épopée qui démarre par un vrai coup de tonnerre en avril 1934. Cette voiture, c'est un choc.
Un choc total, oui.
Elle ne ressemble à rien de ce qui existe. Daniel Rouvet liste les innovations et c'est une avalanche. La carrosserie monocoque, les freins hydrauliques, la traction avant, bien sûr. Ça peut sonner un peu technique, mais concrètement, ça changeait quoi pour les gens à l'époque?
Mais ça changeait absolument tout. Prenez la carrosserie monocoque.
Oui.
Avant, on fabriquait une voiture un peu comme une charrette, hein.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire qu'il y avait un châssis, une sorte de plancher en acier très lourd, très rigide,
D'accord.
et dessus, on venait visser une carrosserie. C'était deux éléments séparés. Citroën, lui, il intègre tout en un seul bloc, comme une coquille d'œuf.
Ah oui, je vois.
Et d'un coup, la voiture est beaucoup plus légère, mais aussi bien plus solide en cas de choc. Et ça permet au designer de créer cette silhouette
Incroyablement basse.
incroyablement basse, fuselée, oui. Ça a fait vieillir toute la concurrence de 10 ans en une nuit. Fini les énormes marche-pieds pour grimper à bord, là, on entrait dans la traction. C'était une révolution posturale.
Et pour le conducteur, ça se traduisait comment en volant? Parce qu'il y a aussi ces fameux freins hydrauliques et la traction avant.
Pour le conducteur moyen, c'était le jour et la nuit. Les freins à câble de l'époque, c'était imprévisible.
Ah bon?
Il fallait appuyer comme un forcené et la voiture pouvait tirer d'un côté ou de l'autre. Avec les freins hydrauliques, on avait une puissance et une fiabilité inédites.
D'accord.
Mais le vrai, le truc qui a tout changé, c'est la traction avant. En tirant la voiture au lieu de la pousser, elle s'accrochait à la route d'une façon phénoménale.
Ah oui.
Dans un virage un peu rapide, là où une voiture classique partait en dérapage, la traction, elle, restait collée au bitume. C'était une sécurité incroyable.
Donc on a une voiture plus sûre, plus basse, plus élégante. L'article détaille la gamme. Il y a eu plusieurs versions, n'est-ce pas? La 7CV, la 11CV.
Oui, la 7CV, c'était le modèle de lancement, mais elle a eu quelques problèmes de jeunesse.
Ah.
C'était lié en partie aux difficultés financières de Citroën, qui a fait faillite cette année-là et a été repris par Michelin.
D'accord.
Le vrai succès, le cœur de la gamme, c'est la 11 CV. Et elle a été déclinée à toutes les sauces, la légère, la normale, et puis la familiale allongée pour 9 passagers.
9 passagers.
Oui, et la commerciale avec un haillon, l'ancêtre de nos breaks modernes, quoi. Et puis, tout en haut, il y avait le mythe, les ministres, de ceux qui avaient réussi.
Et il y avait aussi des versions plus rares.
Oui, les joyaux pour collectionneurs que Daniel Rouve évoque, les sublimes coupés et cabriolets. Malheureusement, leur production a été stoppée par la guerre et n'a jamais repris. Aujourd'hui, ce sont des pièces de musée.
C'est fou de penser que toutes ces innovations, qui étaient purement fonctionnelles au départ, vont en fait sceller le destin de cette voiture
Absolument.
et décider du rôle qu'elle va jouer dans l'histoire. On ne s'en doute pas en 1934, mais cette tenue de route va servir à des fins radicalement opposées.
Exactement. Son histoire se confond avec celle de la France. D'abord, il y a l'image heureuse, celle du Front populaire, des premiers congés payés. La traction, c'est la voiture qui emmène les familles sur les routes de France, un symbole de liberté. Et puis la rupture brutale, la Seconde Guerre mondiale. Et là, elle devient schizophrène.
C'est-à-dire?
Ben, ces qualités, rapidité, fiabilité, tenue de route, en font une prise de choix pour l'occupant. Elle est réquisitionnée en masse par l'armée allemande, et surtout par la Gestapo.
Ah oui.
L'attraction noire silencieuse qui surgit au coin d'une rue, ça devient un symbole de terreur. Son image bascule complètement dans le côté obscur.
Mais c'est fascinant parce que j'ai l'impression que dans la mémoire collective, surtout après-guerre, on a aussi retenu l'image de la voiture de la résistance. Ce n'est pas un peu un mythe qu'on a reconstruit pour effacer le traumatisme de la traction de la Gestapo?
C'est une excellente question. En fait, les deux sont vrais.
D'accord.
Dès 1943, les maquisards comprennent que les mêmes qualités qui plaisent à la Gestapo sont parfaites pour eux.
Pour les coups de main.
Voilà. Rapide, capable de s'enfuir sur des petites routes de campagne. Donc oui, elle a été aussi une voiture de la résistance. Mais vous avez raison, l'image de la voiture de la Gestapo a laissé une trace bien plus profonde, presque traumatique.
C'est vertigineux.
Oui. Pensez que la même bagnole, le même moteur, les mêmes pneus, selon qui était au volant, pouvait être un instrument de torture ou un outil de libération. La technologie est neutre, c'est l'humain qui lui donne un sens, pour le meilleur et pour le pire.
Et cette réputation sulfureuse, elle ne la quitte pas après la guerre, au contraire.
Elle s'amplifie. La libération, c'est une période trouble. Et la traction, avec sa vitesse, sa robustesse, devient la voiture de prédilection du grand banditisme.
C'est l'âge d'or du gang des tractions avant.
C'est ça. Avec des figures comme Pierrot le Fou. L'article montre l'affiche du film Le Gang avec Alain Delon. Ça a gravé cette image dans le marbre. La traction, voiture de gangster.
On est loin de la familiale des congés payés.
À des années-lumière.
Et puis, nouveau retournement de situation, dans les années 50, après avoir été la voiture des voyous, elle devient la voiture du pouvoir. Comment c'est possible, Sam ?
C'est le dernier acte de sa vie officielle. La 4e République s'installe, le pays se reconstruit et la traction 15-6 devient la voiture d'apparat. C'est le véhicule des ministres, des préfets, des généraux.
Elle symbolise le sérieux, la solidité de l'État.
Exactement. Et Daniel Rouve a trouvé des cartes postales incroyables de cette période.
Ah oui.
Il y en a une intitulée « La traction du général » qui montre De Gaulle, une autre avec la 15-6 du président René Coty dans la cour de l'Élysée. Elle passe de l'ombre à la lumière, du crime à la respectabilité, sans rien changer d'autre que ses passagers.
Et l'article l'ancre aussi dans le quotidien.
Oui, avec cette carte postale publicitaire montrant deux tractions devant la manufacture de gants Estrée à Milo. C'est aussi la voiture du patron de PME, quoi.
Mais attends, comment une voiture qui était le summum de la modernité peut devenir démodée si vite au tournant des années 60?
C'est une très bonne question.
C'est le style ou la technologie qui était dépassée?
C'est moins une obsolescence technique que culturelle, en fait. La France des années 60, elle entre dans les 30 glorieuses. On veut de la couleur, de la légèreté, de la nouveauté.
La Dauphine, la 4L.
Voilà. Et la traction, avec sa longue robe noire, comme l'écrit joliment l'auteur, elle paraît soudain austère, presque funèbre. Elle symbolise le monde d'avant, celui de la guerre, de la reconstruction. La société de consommation veut tourner la page.
C'est là qu'elle entame sa seconde vie, beaucoup moins glamour. Une sorte de déclassement social.
Complètement. Elle passe des ministères aux fermes. Sa robustesse, qui séduisait les gangsters, devient un atout pour le monde agricole. Elle ne craint ni la surcharge, ni les chouins de terre.
Elle devient une bête de somme.
C'est ça.
Et l'article a un passage savoureux là-dessus, avec un document publicitaire de 1939. Attendez, il faut que je cite ça, c'est génial.
Allez-y.
On y voit la version commerciale capable de transporter, je cite, « deux veaux de 100 kilos pour le boucher ».
Incroyable.
« Un 18 pots de 20 litres pour le laitier ou encore 5 sacs de 100 kilos de farine pour le boulanger ».
Ça fait une demi-tonne de farine.
Oui. Il y a même un dessin d'un pépiniériste avec des arbres qui dépassent par les fenêtres. On imagine bien la scène sur les routes de l'Aveyron.
C'est génial, non ? Ça montre à quel point cette voiture était un outil total. Après cette vie de la mort, pour beaucoup, le chemin s'arrête dans les casses. L'article a une photo assez poignante d'un cimetière de voitures à Montjoc de Sébazac, avec des tractions qui rouillent.
On se dit que l'histoire est finie. Et pourtant.
Et pourtant.
C'est la Renaissance, début des années 70. Contre toute attente, elle revient à la mode. Comment on explique ça?
Il y a plusieurs facteurs. D'abord, la nostalgie. Pour la génération du baby-boom, c'est la voiture de papa, celle des souvenirs d'enfance.
D'accord.
Ensuite, son design. Une fois qu'on a dépassé l'effet de mode, ses lignes pures, presque art déco, sont redécouvertes. Elle devient intemporelle. Mais il y a surtout une raison très pragmatique.
Laquelle?
Le prix. Dans les années 70, une traction, ça ne vaut plus rien. L'article mentionne des chiffres qui font rêver, entre 200 et 500 francs de l'époque.
C'est rien du tout.
Pour des jeunes passionnés de mécanique avec peu de moyens, c'était une aubaine. Sa technologie était devenue simple, accessible. On pouvait la sortir d'une grange pour une bouchée de pain, la bricoler le week-end et rouler dans une voiture qui avait une gueule incroyable.
Et c'est comme ça qu'elle est devenue un mythe.
Un objet de culte, exactement.
Et l'article nous ramène en Aveyron, pour finir, avec une touche beaucoup plus intime, à travers les souvenirs de l'auteur, Daniel Rouve.
Oui, et c'est ce qui donne toute sa force au récit. Il raconte l'histoire de son grand-père qui était concessionnaire Citroën à Saint-Affrique. Il y a une photo émouvante de plusieurs tractions neuves alignées devant son garage. Mais l'anecdote centrale est terrible. En juin 1944, près de Broquier, un officier allemand est tué par la résistance. Et la traction familiale du grand-père, une 11 CV, est réquisitionnée sur place par les Allemands.
Pour transporter le corps, c'est ça?
Pour transporter le corps, oui. Et son grand-père est au volant.
Ah, la situation terrible!
Il est donc immédiatement considéré comme complice. Il est arrêté et il a failli être fusillé sur le champ. Il n'est sauvé que par l'intervention d'une connaissance. On voit là, de manière microscopique, comment la grande histoire vient percuter une vie ordinaire.
À travers une voiture? C'est glaçant!
C'est glaçant.
Et cette passion, transmise de génération en génération, elle est toujours là. L'article se termine sur des photos de rassemblements de clubs de voitures anciennes, comme celui de la Magneto du Rouergue en 92 à Rodez, où les tractions sont partout.
Le mythe est bien vivant.
C'est la preuve.
C'est exactement ça. Et on comprend la mission du Cartoclub Aveyronnais. En souvent ses histoires personnelles, ses anecdotes, il sauve une part de notre mémoire collective. La traction n'est plus un simple objet industriel. Chacune de celles qui roulent encore est un vecteur de souvenirs.
Elles ont des histoires à raconter.
Voilà, comme celle du grand-père de Daniel Rouve.
Alors, si on devait résumer, que retenir? La traction avant, c'est bien plus qu'une voiture. C'est une icône qui a démarré comme une fusée technologique, qui a été tour à tour le visage de la liberté, de la terreur, du crime et du pouvoir, avant de finir en bête de somme et de renaître en objet de culte. Un immense merci à Daniel Rouve et au Cartoclub Aveyronnais pour ce voyage.
Oui, la trajectoire de l'attraction nous montre vraiment comment un objet produit en série peut finir par acquérir une âme. Elle a été façonnée par l'histoire autant qu'elle a permis de la façonner. Et ça laisse songeur.
Oui.
Ça soulève une question intéressante, je trouve. Quels sont les objets de notre quotidien aujourd'hui qui pourraient devenir les tractions avant de demain? Le smartphone? La voiture électrique?
C'est une bonne question.
Lequel de ces objets sera capable dans 80 ans de raconter notre époque avec autant de force, de nuances et de contradictions?